Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 134, et les présentateurs changent, mais lui il reste, c'est Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On change de chaise musicale, vous avez fait quelques épisodes avec Marianne, et là c'est moi qui reviens dans cette émission. Les sujets, cette fois-ci, on va parler de Ursula von der Leyen, et bien entendu nous parlerons de la colère et de l'attitude des agriculteurs en France, mais on commence donc avec la réélection d'Ursula von der Leyen. C'est tout sauf une surprise en fait.
Alors effectivement, Christophe, Ursula von der Leyen a comme projet d'être reconduite à la tête de la Commission européenne. Il faut encore attendre les élections européennes qu'on va d'ailleurs certainement couvrir pour Europa Voice et qui auront lieu début juin.
Elle peut vraiment perdre cette élection, honnêtement? Oui, elle peut, techniquement, sur le papier.
Elle peut, sur le papier, Christophe, perdre cette élection. Peut-être faire un pas d'abord en arrière pour être reconduite. De quoi a besoin Ursula von der Leyen? Alors elle a besoin d'abord d'être nommée à ce qu'on appelle la majorité qualifiée par les dirigeants de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, donc des 27 États membres de l'Union européenne, une majorité qualifiée, qui en fait eux-mêmes doivent choisir une personnalité qui est issue des rangs du parti politique qui va arriver le premier au lendemain des élections européennes de début juin.
C'est pas compliqué tout ça, ça va ?
Non, c'est pas très compliqué. Les citoyens européens votent, Christophe. On regarde quel est le parti arrivé en tête à l'Assemblée, au Parlement européen. Les 27 choisissent un candidat leader d'un des partis qui est arrivé en tête. Et puis après, par contre, effectivement, dernière étape, elle doit ensuite être investie par une majorité des députés du Parlement européen, donc par 361 au moins députés du Parlement européen. Donc, je résume, citoyens qui votent, 27 des États membres qui choisissent parmi le premier parti arrivé en tête, et puis après, au gré des coalitions, etc., convaincre au moins la majorité absolue, 361 députés, de la conduire à la tête de cette Commission européenne.
D'accord. Les enjeux de cette élection européenne, parce que plus loin que la réélection d'Ursula von der Leyen, il y a les élections européennes qui arrivent. Chaque État a des enjeux un petit peu différents. Si on se focalise un tout petit peu, par exemple, sur la France, l'énorme question, c'est l'impact Bardella. C'est ce qui va se passer là. Il y a des impacts un peu différents donc dans chaque pays. Est-ce que elle, ce serait la personne qui, au total, in fine, réunifiera la voix de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui?
Alors, il y a deux aspects, j'allais dire, qui s'entrechoquent, ou en tout cas qui jouent en parallèle quand on a ces élections, et notamment la présidence de la Commission européenne. D'abord, il y a effectivement les velléités, les volontés, les projets au sein de chaque État membre. Les élections européennes ont ça de spécial, Christophe, que finalement, même si votre parti n'arrive pas en tête, à l'issue des élections européennes, il y a toujours un tiraillement entre est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un de son pays à un poste clé. Là, on parle de la présidente, hein, mais ça peut être aussi un commissaire, ça peut être un rapporteur, etc. Est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un de son pays? Est-ce qu'on fait jouer un petit peu le drapeau national? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir quelqu'un de son pays et avoir quelqu'un de son parti, de son alliance politique? Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Ursula von der Leyen, elle doit aussi convaincre au sein de chaque membre du Parti populaire européen quelle est la candidate adéquate pour être non seulement la leader légitime de cette droite européenne, mais surtout celle qu'on va introduire à la tête de la Commission. Donc ça c'est le premier élément, c'est nationalité versus parti politique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a un agenda aussi national, pour le coup, qui lui est transparti et qui concerne le président de la République à l'heure actuelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, là, à la tête du nouveau gouvernement, vont considérer les positions d'Ursula von der Leyen sur plein de sujets avec lesquels ils ne seront pas forcément d'accord. Je pense au charbon versus nucléaire, je pense au plan de relance, je pense au pacte vert, je pense aux déclarations vis-à-vis de l'Ukraine.
L'immigration.
Je pense à l'immigration. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, si vous voulez avoir le soutien, parce qu'elle a déjà le soutien allemand, elle a déjà le soutien de Scholz, von der Leyen, mais avoir le soutien du couple franco-allemand, on y revient toujours, Christophe, c'est essentiel pour une présidente ou un président de la Commission européenne, notamment, et ça c'est important de le préciser pour nos auditeurs d'Europa Voice, où il y a un petit peu de bisbille sur la ligne entre elle et le président du Conseil européen, qui, Charles Michel. Donc c'est important d'avoir le soutien du couple franco-allemand et des représentants, des présidents ou des premiers ministres nationaux.
Qu'est-ce qu'on aime la politique, hein, c'est toujours un peu comme ça. Quand on voit que en France, par exemple, vous mentionnez le fait qu'elle représenterait un l'aile droite de la politique européenne. Quand on voit que François-Xavier Bellamy dit, et là je cite, Ursula von der Leyen a largement contribué à fragiliser l'Europe. Même à droite, il y a des questionnements sur elle, en fait.
C'est exactement une illustration de ce propos-là. C'est-à-dire que même au sein de sa famille politique, elle doit réussir à convaincre du bien fondé de son leadership. Et en France, c'est un très bon exemple, Christophe. Elle a pour l'instant, le blanc-seing des macronistes. Mmh. Ce sont les macronistes, finalement, les politiques de droite, d'une certaine façon, qui pèse au Parlement européen, alors que sur la scène nationale, ben, il y a plus à droite que les macronistes et qu'Emmanuel Macron. Je ne vais même pas à l'extrême droite, mais il y a François-Xavier Bellamy. Et puis, je vais même un peu plus loin. Si vous prenez des élections européennes précédentes, et on peut faire un petit saut dans le passé, on peut par exemple considérer celle de 2014. Voilà, prenons cet exemple, les élections européennes de 2014. Les centristes, pour prendre l'exemple d'un parti politique, les centristes n'avaient pas la même position et les mêmes jeux d'alliance au niveau national en France, où par exemple l'UDI était, donc l'UDI de Jean-Louis Borloo était allié à la droite, aux Républicains à cette époque-là, alors que pour les élections européennes, l'UDI s'était allié au Modem contre la droite au niveau du Parlement européen. Et donc c'est là, on y revient toujours, là j'ai pris cet exemple de 2014, mais c'était vrai pour les dernières élections européennes et ce sera vrai pour les prochaines élections européennes. Les alliances nationales ne sont pas forcément les mêmes que les alliances au niveau européen. Et donc c'est un exercice un peu d'équilibriste pour Ursula von der Leyen de convaincre, encore une fois, au sein même de son camp à droite, que ce soit au niveau national ou au niveau européen.
Un des gros points de discussion d'ailleurs autour de Ursula von der Leyen, c'est sa position avec l'Ukraine et l'armée au niveau européen. Elle est pour plus d'armées, une prise de conscience militaire de l'Europe. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors on l'avait vu avec notre chère collègue Marianne la dernière fois, le soutien européen de l'Union européenne à l'Ukraine, il a plusieurs réalités. C'était un soutien militaire, un soutien financier et un soutien humanitaire. Ursula von der Leyen, elle veut aller, j'allais dire, à la fois un peu plus loin et elle veut plus aussi corréler ces différents types de soutien. Elle a proposé, en ce début du mois de mars, la présidente de la Commission européenne, d'utiliser les avoirs russes gelés en Europe pour armer Kiev, pour armer davantage Kiev. Donc en gros,
donc, utiliser l'argent qui a été entre guillemets confisqué aux Russes pour pouvoir soit renflouer les dépenses faites par les Européens dans le combat avec l'Ukraine et aller de l'avant et payer ce que l'Europe pourrait utiliser pour aider justement l'Ukraine.
Exactement, Christophe. Elle veut aller plus loin dans son aide à l'Ukraine.
C'est vraiment une mauvaise idée?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est logique et dans la lignée de ce qu'elle a fait depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Elle a quand même tout de suite insufflé, et ça, il faut lui reconnaître, Ursula von der Leyen, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour l'Ukraine, elle a su tout de suite mobiliser les troupes européennes, d'une certaine façon. Quand je dis les troupes, c'est au sens figuré, mais mobiliser les États membres au niveau européen, les forces politiques, les différentes forces politiques, pour mettre à bien les projets qu'elle avait envie de mener. C'était vrai pour le Covid, vous vous rappelez, au niveau des vaccins, des commandes groupées. C'est vrai aussi pour l'Ukraine, et ce, malgré l'adversité et l'opposition de certains États membres. Mais là, elle veut aller un cran plus loin, et puis ça s'inscrit aussi d'une certaine façon. C'est une pirouette un peu, Christophe, parce que Emmanuel Macron, lui, a évoqué l'envoi de troupes au sol. C'est la polémique du moment, Christophe, pour nos auditeurs d'Europa Voice.
Il l'a pas évoqué, je vais faire l'avocat du diable, il a dit qu'il ne
n'excluait pas.
Il n'excluait pas l'idée et les chaînes télé ont dit oulala, il vient envoyer des troupes. C'est là où il faut vraiment faire un petit partage et qu'on a le droit d'expliquer un petit peu de ce côté-là.
Non, mais effectivement, quand je dis
il a dit rien n'est à exclure.
Voilà, rien n'est à exclure, mais il a mis en tout cas ce sujet dans le débat, il a lancé une
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il a jeté un pavé dans la mare, d'une certaine façon. Donc, et c'est intéressant aussi parce que c'est une pirouette. Quand je dis que c'est une pirouette, c'est aussi une manière pour Ursula von der Leyen d'expliquer que la solution n'allait pas forcément dans l'envoi de troupes, dans l'envoi d'hommes, mais de continuer à agir sur des leviers qui font mal et qui gênent la Russie, notamment les avoirs russes qui sont gelés, pour pouvoir continuer à fournir une aide financière, encore une fois, une aide financière, une aide militaire, une aide humanitaire à l'Ukraine, parce qu'on arrive aussi à un moment charnière. Il y a quand même l'instabilité de cette élection au niveau du Parlement européen. Vous le savez très bien, quand il y a une campagne politique, on veut éviter de parler des sujets qui fâchent, parce qu'il faut mobiliser ses électeurs. Donc c'est aussi une certaine façon d'anticiper, mais sans trop se mouiller, ce que pourrait être la mandature numéro 2 d'Ursula von der Leyen sur ce point très spécifique qu'est l'aide à l'Ukraine.
Oui, tout à fait. Vous nous rappelez les dates des élections européennes ?
Les élections européennes sont prévues du 6 au 9 juin 2024, Christophe.
Voilà, aucun doute qu'on en reparlera. Allez, on va parler maintenant des agriculteurs en France. Et ça chauffe depuis plusieurs mois. Il est temps de faire un point dans cette Europa Voice tout de suite après ça.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Deuxième partie de Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Et cette fois-ci, on va parler des agriculteurs en France, que ça chauffe depuis un petit moment avec la relation entre le gouvernement et les agriculteurs. À un point culminant, la semaine dernière, Emmanuel Macron s'est retrouvé en bras de chemise au milieu de plusieurs agriculteurs à faire une explication de texte. Plus de 2 heures à expliquer ou à tenter d'expliquer ça et ses différentes politiques. On va parler de tout ça. Expliquez-nous un petit peu la situation aujourd'hui avec... la grande famille des agriculteurs en France.
Alors c'est très bien parce qu'il y a la réponse en fait dans votre question, Christophe, comme souvent.
C'est
d'ailleurs.
Un métier, hein.
Il n'y a pas une grande famille des agriculteurs.
Exactement.
Et c'est aussi ça la difficulté qu'a eu Emmanuel Macron à ce salon de l'agriculteur, c'est qu'on ne parle pas de la même manière aux agriculteurs qui ont du mal à faire tourner une ferme avec des bovins, qu'on ne parle aux grands céréaliers d'Île-de-France qui sont plus des industriels que des agriculteurs.
Et ça pose en question le rôle du syndicat agricole, la FNSEA, pour qui il agit, comment il est financé. Tout ça, ça met aussi un peu en exergue cette position dominante du syndicat principal de l'agriculture.
Et c'est aussi la question de la représentation et de la défense de votre secteur par un groupement d'intérêt. Est-ce que, encore une fois, la FNSEA représente vraiment la diversité des profils d'agriculteurs, de céréaliers, etc. Et la réponse, elle est non, Christophe.
Oui, je pense que la réponse, elle est assez claire, c'est non.
Elle est non, la réponse. Et puis, donc ça, c'est le premier élément. C'est que c'est compliqué, malgré l'appellation commune et cette espèce de parapluie qu'est le salon de l'agriculture, de parler d'une seule voix. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, Christophe, c'est qu'il y avait déjà des braises de la colère de certains groupes. Donc, en fait, Emmanuel Macron, quand il va au salon de l'agriculture, il n'y va pas en terrain totalement neutre, il est attendu. Et puis peut-être un troisième élément, hein, n'est pas Chirac
qui veut
Christophe. Et donc malgré cet exercice qui encore une fois est très courageux, là je crois qu'il faut le mettre aussi au bénéfice du président de la République, prendre comme ça, avoir une discussion à bâton rompu, peut-être un peu préparé mais grandement quand même improvisé, puisque les questions n'étaient pas prévues, etc., qu'il a pris les questions comme cela.
Enfin, je suis tenté de dire, je ne fais pas le défenseur d'Emmanuel Macron en aucun cas, mais se dire préparé, heureusement. S'il était arrivé pas préparé, ça m'aurait plus ennuyé qu'autre chose, honnête.
Non, mais vous avez raison, mais vous comprenez l'idée. Donc ça, c'est un petit peu toutes les difficultés. Et puis, un deuxième niveau de lecture, Christophe, qui pour le coup, lui, n'est pas franco-français, c'est que finalement, avec cette agriculture, avec ce secteur agricole en France, on en revient toujours aux contraintes, aux normes imposées par Bruxelles. au remboursement aussi. Il y avait une demande d'un an de pause de remboursement qui a été faite par les agriculteurs, qui a été refusée par
la fameuse année blanche.
La fameuse année blanche. Donc tout ça aussi, c'est en toile de fond. C'est toutes ces questions autour de la politique agricole commune européenne, des subventions européennes, de la concurrence déloyale, des appellations d'origine garantie. Et ça, je fais juste un petit pont, comme on aime bien en faire, d'Europa Voice. C'est quelque chose aussi qui fait que les accords de libre-échange sont actuellement en fait un peu à l'arrêt, Christophe, entre la...
Ouais, on n'en parle plus beaucoup en fait. Hein.
Exactement, entre l'Union européenne et l'Australie. On était très optimiste en 2022, en 2023. Et puis là, il y a toutes ces questions-là de marché inondé par des produits qui ne répondent pas aux mêmes normes, qu'elles soient sanitaires, légales, d'appellation d'origine contrôlée. Et notamment l'accord de libre-échange qui concerne peut-être un peu plus nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS entre l'Union européenne et l'Australie est un peu au point mort. Donc vous voyez, la question de l'agriculture, il y a effectivement un niveau très national sur des groupes d'intérêts qui ont finalement assez peu de choses en commun, et il y a toujours ces questions européennes qui font que c'est très très difficile aussi d'avoir le curseur totalement entre les mains de la France pour gérer les différentes réformes, etc. Malgré, et ça, je crois encore une fois, il faut le mettre au compte du président de la République, du gouvernement Attal, mais des gouvernements précédents, malgré une certaine proactivité et un certain dynamisme sur les lois agricoles spécifiques. Je pensais notamment à la loi Egalim, on parle d'une quatrième mouture de cette loi. Donc voilà, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, mais c'est compliqué, c'est un sujet compliqué. Et puis, il y a aussi d'une certaine façon... toujours ces restes un peu de gilets jaunes qui prennent d'autres noms, mais qui ressortent de la même contestation populaire.
Mais ça, on en revient et on fait un lien avec la première partie d'Europa Voice. Un des grands trublions de tout ça, c'est aussi Bardella. Parce que Bardella, lui, il est presque sur le point d'enfoncer quelques portes ouvertes qui font plaisir aux agriculteurs. Si cela est applicable ou pas applicable, ça, c'est complètement une autre discussion. Mais il y a aussi cet enjeu de ces élections européennes qui sont autour de cette politique agricole commune qui ont un impact envers la France. Il y a aussi un autre point que je voulais voir avec vous. On est quand même content que les Britanniques soient plus là, parce que eux, ils étaient plutôt contre la politique agricole commune. Ça, s'il y a un point qui est clair, c'est que la chose n'aurait pas été la même. La donne n'aurait pas été la même avec les Britanniques à l'intérieur de l'Europe.
Alors, je vous rejoins totalement sur ce point, Christophe. Effectivement, c'est peut-être un plus pour l'agriculture française.
On peut dire que ça aurait été le bordel.
Ça aurait été plus compliqué. Sur la question de l'extrême droite, effectivement, Bardella, mais aussi Zemmour, d'une certaine façon, veulent capitaliser sur ce mécontentement d'une certaine partie de la population, parce que ça sert aussi, et là on fait un peu de communication politique, mais ça sert aussi leur narratif politique, leur histoire et ce qu'ils veulent faire de ces territoires ruraux, délaissés, complètement enclavés, jamais abreuvés des bonnes subventions qui vont toujours au même, etc. Donc oui, la chance qu'ont encore les partis, j'allais dire, de gouvernement, les partis républicains, c'est que pour l'instant, les mêmes recettes produisent les mêmes résultats et que, jusqu'à preuve du contraire, l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir en France. Malgré une progression inquiétante lors des 3 et 4 dernières élections présidentielles. Mais effectivement, il y a cette volonté de Bardella et de récupérer ce mécontentement. Et puis, rappelons-le encore une fois, hein, parce que c'est un énorme événement de politique nationale, malgré une fréquentation légèrement en baisse, hein, important aussi de le signaler, mais à peine 2%. Il y a encore un champ, même sur ce sujet-là, qui est l'agriculture, il y a un champ laissé totalement vacant par la gauche.
Ouais, totalement.
Donc, même au salon de l'agriculture, on en revient à une opposition Macron-Bardella, Macron-extrême droite. Donc forcément, oui, il y a un écho qui est donné à la venue sur site de Jordan Bardella, de Marion Maréchal Le Pen, etc.
Absolument. Voilà, c'était Europa Voice pour cette semaine. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.